La quête paralympique en est une éprouvante physiquement et psychologiquement, d'où l'importance de pouvoir compter sur un mentor qui peut nous guider et nous conseiller à travers tous les détours sinueux menant au succès. Quel est le rôle d'un mentor pour un athlète avec un handicap? On le découvre au Signal. Kevin Breton de retour au micro pour cette nouvelle émission d'Au Signal. Très heureux de vous retrouver après vous avoir fait faux bond la semaine dernière. Je m'en excuse, je vous promets que ça ne se reproduira pas. Qu'à cela ne tienne, on a une très belle émission aujourd'hui. On accueille en studio notre première invitée que je suis très heureux d'avoir avec nous, Camille Chai, mon amie. Bonjour Camille.
Salut Kevin.
Très heureux de t'avoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pratiques l'escrime en fauteuil roulant. Mais t'es pas en fauteuil roulant dans la vie de tous les jours.
Non, exactement. Moi, j'ai, en fait, je suis née sans mon bras et ma jambe gauche. Donc, dans la vie de tous les jours, je porte toujours une prothèse de jambe, mais... Quand c'est le temps de faire de l'escrime, je m'adapte et je m'assois volontiers dans le fauteuil.
Parce que dans le fond, la version adaptée de l'escrime, comme on le connaît, elle se pratique normalement en fauteuil roulant?
Oui, toujours. En fait, c'est ça. Quand on parle d'escrime paralympique, tout le monde est en fauteuil, peu importe le handicap.
C'est le seul modèle qu'on retrouve aux Paralympiques.
Oui.
C'est un sport que tu pratiques depuis un an et demi maintenant.
Oui.
Comment se passe, disons, ton année sur le plan sportif en ce moment?
Ben écoute, ça se passe très bien. C'est quand même toujours aussi intense, hein, parce que bon, ça fait déjà un an et demi, mais ça a démarré tellement rapidement. Je te dirais que ça se passe donc très bien. Écoute, les défis continuent d'augmenter, d'évoluer. Je suis rendue à un stade où il faut que... là, la technique, j'ai quand même une très bonne base, mais là, la question, c'est surtout d'avoir un entraînement de masse, donc m'entraîner le plus possible.
C'est combien d'heures d'entraînement par semaine?
Écoute, ça varie quand même, parce que j'ai 36 000 projets à côté, oui. Donc j'essaie de composer avec tout ça, mais c'est quand même autour d'une dizaine d'heures. C'est quand même pas beaucoup. Il faudrait que ce soit plus. Hein. On n'en a jamais assez, mais ça
c'est
prend...
C'est quand même une dizaine d'heures, c'est beaucoup. Là. C'est comme le quart d'une semaine de travail pour quelqu'un au régulier. Là,
oui, donc, voilà, à peu près. Puis là-dedans, on compte ben, évidemment les entraînements d'escrime, mais il y a aussi la préparation physique, le temps que ça prend pour se rendre, pour revenir à la maison, tout ça. Donc oui, ça occupe une bonne partie du temps.
Sur les plans des compétitions, est-ce que tu as été occupée pas mal de ce côté-là?
En fait, j'ai été beaucoup occupée, plus l'année dernière, parce que comme c'est ça, la première année, je me suis lancée à fond la caisse, comme on dit. J'ai fait, en fait, il y a à peu près 5 Coupes du monde par année. Je les ai toutes faites. Cette année, ça va être un petit peu différent parce que il y a la question, en fait, des moyens, hein, du budget mm-hmm. On peut pas l'éviter.
Parce que ça coûte de quoi, là, ces frais d'admission-là?
Ça coûte, mais oui, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, ne serait-ce que déjà le billet d'avion, les frais de compétition, l'hôtel, mm-hmm. La nourriture, le matériel, tout ça. Donc,
puis j'imagine le fait que l'escrime en fauteuil roulant, c'est une discipline paralympique quand même connue, oui, mais je veux dire, il n'y a pas des compétitions comme il y a des compétitions de basketball en fauteuil roulant au Québec à tous les mois. Là.
Non, pas du tout, c'est ça, c'est beaucoup moins fréquent.
Il faut sortir à l'extérieur vraiment souvent pour y aller.
Et voilà, beaucoup plus. Mais c'est ça, il faut avoir les moyens. Ce que j'espère trouver justement une solution bientôt. Mais voilà, cette année, je sais que j'aurai moins de compétitions à faire, mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner.
T'es une athlète née, c'est pas le premier sport que tu pratiques, l'escrime en fauteuil roulant. T'en as pratiqué d'autres, comme le badminton.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as vraiment voulu te consacrer à l'escrime? C'est quand même assez... C'est pas un sport qui nous viendra en tête à prime abord, l'escrime, là?
Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, l'escrime, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années quand, en fait, j'étais jeune, je faisais aussi beaucoup de vélo. J'avais un vélo adapté. Et moi, j'ai grandi à Laval. Et un jour, donc, je me promenais en vélo dans le stationnement d'un centre commercial et il y a un homme qui m'a approché. C'était un maître d'armes. Et il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il cherchait une personne avec un handicap qui voulait entraîner avec l'espoir de se rendre jusqu'aux Jeux paralympiques. Et moi, qui connaissais absolument pas l'escrime, et par contre, ayant énormément bougé puis relevé des défis, j'étais vraiment intéressée d'aller découvrir ce sport-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, le sport de combat, je trouve ça tellement
beau. Ça vient me chercher.
Oui, ça vient me chercher beaucoup. Je trouve ça magnifique.
Il y a une espèce de guerrière qui se cache derrière toi.
Oui, exactement.
Est-ce que la seule chose que tu connaissais de l'escrime il y a 10 ans, au moment de cette rencontre fortuite-là, c'était un peu comme les chevaliers de l'époque ou...
Non, ben en fait, j'avais pas vraiment d'attente ou vraiment d'idée, mais ce que je te disais, ce qui m'a attiré, moi, c'est le combat, mais avec les épées aussi, la technique, la stratégie. Donc, c'était un peu ça que j'avais en tête à ce moment-là.
Là, de fil en aiguille, c'est devenu une véritable passion, même une vocation pour toi. Tu as des ambitions paralympiques?
Oui, certainement. C'est sûr que mon but ultime, c'est de me rendre aux prochains Jeux à Tokyo en 2020. Pour être honnête ou réaliste, je sais que je vais avoir des montagnes à gravir entre-temps. Mais si je peux te garantir une chose, c'est que je vais donner mon maximum pour pouvoir me rendre jusque-là.
Il y a beaucoup d'étapes qui mènent aux Jeux paralympiques. On parle d'épreuves de qualification qui s'en
Oui.
viennent dans les prochaines
Oui,
années.
par exemple, il y a donc évidemment les fameuses Coupes du Monde, les championnats, l'entraînement, c'est un peu tout ça. En fait, c'est tellement quotidien que je veux être capable de garder le cap et la tête haute
Le focus.
jusque-là. Ouais, exactement.
À travers tout ça, tu mènes aussi une vie bien remplie. Tu en as parlé tantôt. Un million de projets,
Oui.
dont un autre qui prend beaucoup de ton temps, qui est l'idée de devenir une conférencière à
Tout à
temps
fait.
plein, d'en faire ton emploi. Est-ce que je me trompe en disant qu'au Québec, il y a une espèce d'engouement ou un envie d'avoir des conférenciers ou des conférencières?
Non, je pense que tu as raison parce que les gens sont rendus à un moment, je pense, dans leur vie où il y a tellement de choses qui se passent, on se rend compte que le bien-être est quelque chose de très important, la connaissance de soi, le développement intérieur, entre autres. Mais moi, ce qui me touche beaucoup là-dedans, c'est justement vivant avec ma différence, mon handicap, c'est tellement voyant, apparent que. Ben justement, j'ai pas envie que ce soit passé sous silence ou caché. Je veux parler de ces choses-là parce que, bon, vivre avec un bras, une jambe en moins ou un handicap, je veux dire, on est quand même là, on a quand même plein de projets, d'ambitions, on est vivant, quoi. Donc, c'est un peu toutes ces belles expériences, une bonne attitude, une joie de vivre que j'ai vraiment, ça me tient à cœur, en fait, de partager ça le plus
Ce
possible.
sont les thèmes que tu explores grosso modo dans tes
Grosso modo,
conférences.
oui, voilà, ouais.
Mercredi, tu étais à Granby pour donner une conférence. Ça s'est bien passé?
Ça s'est très, très, très bien passé. C'était pour un groupe de femmes, une association culturelle des femmes de Granby. Ça s'est super bien passé. C'était une très, très belle soirée. Je suis bien contente.
Super. Si on vient un petit peu, en fait, moi, je suis curieux de savoir comment on réussit à garder un équilibre dans sa vie en ayant autant de projets qui sont énergivores et chronophages comme le sport avec des ambitions paralympiques, le fait d'être conférencier. Je sais que tu as d'autres projets autour de ça. Comment tu fais pour réussir à dormir 8 heures par jour minimum comme c'est recommandé?
C'est une bonne question. En fait, je te dirais que je suis encore un peu dans l'exploration de trouver un peu mon équilibre dans tout ça parce que, en fait, plus il y a des projets qui arrivent, plus on en veut plus. Donc, écoute, je te dirais que il faut quand même avoir un certain équilibre mental, si je peux dire ça comme ça. J'apprends beaucoup, en fait, que c'est important de apprendre à relaxer, à se déposer, à prendre le temps d'un petit peu regagner mes énergies. Donc, j'essaie de dormir quand même assez, mais il y a toujours quelque chose quand même qui est très vivant et qui pousse à l'intérieur. Et le fait d'avoir aussi mes amis, ma famille qui sont autour de moi, c'est un élément très, très important qui pèse dans la balance aussi par rapport à mon équilibre.
À travers tout ça, il y a aussi une recherche de financement, de
Oui.
dons, de commandites, parce que
Oui.
la pratique d'un sport d'élite, c'est vraiment coûteux. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça peut coûter en termes d'équipement puis d'inscription de pratiquer l'escrime?
J'ai pas de chiffres exacts, mais juste pour avoir une idée, juste pour les Coupes du Monde, les compétitions, on peut dire à peu près 2 000 $ par compétition. Donc, on part déjà à 10 000 en partant. Après ça, il y a les frais, des frais quelconques par rapport à la fédération ou les déplacements, les entraînements, le suivi aussi. Un minimum de 15 000, je dirais, grosso modo.
Est-ce que tu dirais, parce que tu sais, bon, ça, c'est un fait qui est connu dans l'ensemble du sport amateur, la difficulté d'aller chercher du financement. Est-ce que tu dirais que c'est doublement difficile en termes d'investissement personnel et d'investissement d'argent quand on est un athlète avec un handicap?
Ah oui, je te dirais que oui, parce que c'est ça, j'ai eu la chance de l'expérimenter l'année dernière. Donc, comme on dit, l'argent, c'est une chose, mais physiquement, le fait de. Ça m'est arrivé de partir en compétition, donc de me rendre toute seule à l'aéroport avec mon gros sac d'escrime, avec toutes mes armes et mon matériel dedans, avec le fauteuil roulant qu'il faut aussi traîner.
Trimballer, ouais.
Trimballer, c'est ça. Donc, c'est quand même sportif, hein, c'est le cas de le dire. Surtout en plus en hiver, ben, il y a d'autres enjeux. Donc, c'est un énorme investissement. Je ne sais pas si les gens sont conscients du niveau de temps, d'énergie, de motivation que ça demande. C'est énorme quand même.
Ben oui, je voyais comme par exemple le Comité paralympique canadien tenait sa coupe parafort hier. Puis j'ai remarqué que pour l'achat d'une luge, quand on pratique le hockey luge, dans les quatre chiffres pour s'en procurer une. C'est extrêmement cher. Et même dans le quotidien, dans l'entraînement, tu me faisais penser à un truc que j'avais jamais réfléchi, mais le coût de stationnement au stade olympique, c'est super cher. Des fois, on n'a pas les moyens de se le permettre.
Ben, des fois, on n'a pas les moyens. C'est mon cas à chaque fois, à chaque semaine. Écoute, le stationnement là-bas coûte 16 $.
Wow!
Donc, si j'y vais même juste un minimum de deux fois semaine ou alors plus...
Ça monte vite.
Ben oui, ça monte vite. Et sachant que j'ai déjà besoin d'argent pour payer le reste, je veux dire, ça finit plus. On tombe dans le négatif.
Donc, tu dois te stationner un peu plus loin, puis voilà. On repart l'entraînement dès la sortie de l'automobile.
Exactement. Le combat commence beaucoup plus tôt qu'après le « en garde, prêt, allez!
» Heureusement, à travers tous ces combats-là, ces obstacles-là, tu as pu compter sur un mentor. Ben, tu me disais que tu avais eu des mentors dans ta vie, là, autant pour ta partie conférencière qu'à l'école. Oui. Mais il y a aussi un mentor qui a joué un rôle important dans ta vie sur le plan sportif, qui est Pierre Mainville.
Tout à fait.
Que tu as rencontré, bon, ben, c'est un peu lui qui t'a donné qui a servi de bougie d'allumage pour lancer ta carrière d'escrimeuse en fauteuil roulant. On va aller le rejoindre au bout du fil dans un instant, mais est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé, votre rencontre, les deux?
Oui, certainement. En fait, j'ai quand même un bon souvenir, hein. Ça fait à peu près un an et demi. Il y a une amie à moi qui le connaissait, donc il m'a donné son contact. J'ai appelé Pierre et je me souviens qu'on a eu une très belle discussion où il m'a vraiment dit, en fait, tout ce que ça comprenait, le fait de rentrer en fait dans Team Canada, dans l'équipe nationale. Et il a été vraiment clair dans le sens qu'il m'a dit, Camille, il dit, si tu as envie de faire partie de l'équipe, que tu es motivée, que tu es engagée, il dit, tu peux compter sur moi, je vais être là pour m'entraîner avec toi et pour te partager tout mon bagage, tout ce que j'ai appris dans ma carrière d'athlète. Donc, et quand il m'a dit ça, c'est tellement venu me chercher que je me suis dit, ah oui, je peux pas laisser cette place-là à une autre personne, c'est moi.
Je veux saisir l'occasion.
Exactement.
Puis, ben, bon, t'es sûrement pas sans savoir qu'il a été en Italie pour des compétitions récemment.
Oui.
Ça s'est très bien passé de son côté et il est de retour au Québec depuis peu.
Oui.
Puis, on va pouvoir aller le rejoindre au bout du fil dans un instant après cette petite intermède musicale. Toujours au Signal en compagnie de Camille Chai. Et au bout du fil, ben, il y a son mentor dont elle vient de nous parler, Pierre Mainville, qui lui a eu un gros automne, on peut le dire comme ça, n'est-ce pas, Pierre?
Oui.
Vous êtes de retour d'Italie pour des compétitions. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
Oui, c'était pour moi une compétition, dans le fond, comme un peu un retour à la compétition parce que je me suis blessé dernièrement. Donc, ça faisait quelques mois là, que j'avais pas vraiment tiré, mais en allant là-bas avec l'équipe canadienne, surtout en équipe, on a fait un meilleur résultat. Mm-hmm. Personnellement, pour moi, c'était pas un super résultat. J'ai fait le top dans les 16 premiers. Mais malgré tout, là, je suis content là, parce que la douleur n'était pas très présente. Donc là, on regarde avec les médecins là, qu'est-ce qu'on a comme option.
C'était une blessure à quel endroit?
C'est au coude gauche, dans le fond. C'est le cartilage qui est brisé.
Mm-hmm. Donc, on satisfait donc plus ou moins du résultat individuel, mais du résultat en équipe, ça a été une belle performance à vos yeux?
Ben oui, parce que c'est pas juste moi qui a performé. Donc, avec l'aide des autres, on réussit à avoir quand même un bon résultat. Là, on a réussi à faire dixième. Là.
Vous étiez là avec Mathieu Hébert et Ryan Roussel. Est-ce que vous pouvez me parler, en fait, du rôle que vous avez? Parce que vous êtes un peu le vétéran de l'équipe, Pierre. Quel rôle que vous avez? Comment tu vois ton rôle au sein de cette équipe-là?
Ben, c'est la même chose qu'avec Camille, je dirais. C'est de parler beaucoup, de partager mon expérience. Souvent, tu sais, je vais demander aux gens comment ils se sentent. Tu sais, sont-ils trop nerveux? Sont-ils pas assez nerveux? Parce que la nervosité, ben, c'est quand même important, tu sais, de se sentir. Puis de voir aussi qu'est-ce qu'on a mangé la veille. En tout cas, c'est faire un wrap-up un petit peu sur tout. Puis surtout sur l'expérience que j'ai, qu'on n'a pas toujours la facilité à avoir. Moi, je me rappelle, dans mes débuts, j'avais personne autour de moi. Donc, les petites expériences comme ça, ben, j'aurais aimé ça les avoir. Donc, c'est un petit peu ça que j'essaie de venir donner là, à ceux qui n'ont pas cette expérience-là.
Donc vous, si on remonte au début de votre carrière d'escrimeur en fauteuil roulant, Pierre, vous n'aviez pas de mentor un peu comme Camille peut avoir en ce moment avec vous. Qu'est-ce que vous trouviez plus difficile de ne pas avoir une espèce de conseiller puis une espèce de guide pour vous mener à travers tout ça?
Bien, quand j'ai commencé, c'est sûr que j'avais une bonne confiance en moi puis tout ça. Je ne sais pas si je sentais la nécessité d'avoir nécessairement ce mentor-là, mais avec le temps, j'ai compris que j'aurais bénéficié de ça. Donc, au début, tu sais, dans mes débuts, je ne sentais pas ce besoin-là. C'est sûr que j'avais une grande confiance aussi à mes entraîneurs, puis à l'équipe qui était autour de moi que je me suis forgée, parce que, veux, veux pas, à un moment donné, il y avait des personnes avec qui on s'entraîne, qu'on ne s'entend pas nécessairement bien, puis qu'on doit les changer. Puis, ben, c'est ce qui est arrivé. Je me suis formé l'équipe autour de moi qui fitait avec moi, que je me sentais bien avec eux. Puis à partir de là, ben, j'ai bâti. Puis, ben, c'est un petit peu ça là que j'essaie d'apporter aux autres.
Donc, vous avez servi de bougie d'allumage pour la carrière de Camille. Est-ce que vous pouvez me dire, Camille, après bon, cette première rencontre, c'est quoi les conseils, en fait, ou l'apport que Pierre vous a apporté pour vous permettre de continuer puis de persévérer dans votre sport?
En fait, Pierre, il m'a amené beaucoup de choses. On a tellement eu de belles discussions avec donc beaucoup d'éléments. Mais ce qu'il me disait surtout, c'était que il fallait, en fait, il est toujours là pour me pousser, pour toujours que je sois là pour m'accrocher. Il m'a prévenu, il m'avait dit qu'il allait avoir des moments qui allaient être plus difficiles, peut-être des moments où j'allais peut-être avoir envie d'arrêter. Mais il m'a bien dit de pas lâcher, d'accepter un petit peu ces moments-là. Et en fait, c'est ça, il s'assurait beaucoup en fait de mon état ou de mon bien-être. Donc ça, c'est sûr que ben, ça me mettait en confiance, en sécurité, en quelque sorte. Donc il m'a amené beaucoup d'enseignements, oui, par rapport au sport, mais en faisant aussi référence à la vie de tous les jours. Donc comme par exemple, Pierre a vraiment tendance à, comme il veut que je me surpasse. Il me mène en situation où, quand j'arrive pas à résoudre le problème pendant le combat, eh ben, il va me refaire la même chose jusqu'à ce que je trouve le moyen de solutionner le type d'attaque en question.
S'acharner.
Et ouais, c'est ça, exact.
Puis vous me disiez qu'il y a une approche très philosophique quand il vous enseigne des tactiques ou des tactiques de combat. Est-ce que vous avez des exemples? Il utilise même des exemples du quotidien, en fait. Là, ça semble inusité comme ça, là.
Oui, mais en fait, c'est beaucoup des choses dans le sens par rapport à l'attitude ou ce que je vais avoir dans la tête. Parce qu'en fait, en escrime, ce qui est important, c'est que, ou en garde, prêt à aller quand c'est le temps de faire le
Battre.
combat, voilà, il faut avoir une idée en tête. Et ça, Pierre me le répète beaucoup, 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 parce que c'est quelque chose qui prend du temps, en fait. C'est comme un réflexe à apprendre, mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. C'est si je suis devant une situation X que je ne sais pas quoi faire, est-ce que juste de me dire est-ce que j'avance ou je recule, est-ce que j'ai peur ou est-ce que non, je sais ce que je veux faire parce que j'ai une idée positive, c'est beaucoup là où il m'amène. Il me dit, Camille, si tu manques un coup après ma réflexion, c'est de me dire ah non, je suis pas bonne ou j'ai raté. Ben, je suis pas en train de construire déjà ma prochaine attaque ou mon prochain jeu. Donc, c'est toujours avoir la pensée positive.
Donc, si je comprends bien, Pierre, puis vous allez pouvoir confirmer, c'est que autant sur le tapis lors des combats que dans la vie de tous les jours, vous avez misé sur l'importance d'avoir un plan de match et de visualiser son combat.
Ben, effectivement, je pense que c'est ça qui fait qu'on bâtit dans la vie, que ce soit dans n'importe quoi. Moi, je vois l'escrime comme la vie. Donc, si t'as pas d'idée où tu t'en vas, ben, tu vas dériver, là. Donc, c'est la même chose en escrime. Tu choisis ce que tu veux faire, quelle sorte d'attaque tu veux mener. Puis même si, admettons, tu t'es trompé, puis l'adversaire t'a eu par cette action-là, c'est pas grave. T'as décidé de faire quelque chose, puis tu l'as suivi, cette idée-là. Donc, après ça, tu peux juste bâtir avec une autre idée ou avec un autre chemin, mais l'important, c'est que tu saches qu'est-ce qui s'est passé.
Vous définissez comment, Pierre, le rôle d'un mentor? Est-ce que c'est à mi-chemin entre un coach et un coéquipier? Est-ce que c'est plus un ami?
Ben, moi, je me vois plus comme un partenaire d'entraînement qui partage son expérience. Le mentorat, ben, c'est large, là. Moi, c'est vraiment. La première chose que j'ai demandé à Camille, là, dans le fond, là, moi, quand j'y ai parlé au téléphone, c'est elle qui m'avait contacté par courriel, je me rappelle bien, ou par Facebook, je me rappelle pas. Mais bon, j'avais dit, écoute, Camille, je dis, moi, je suis prête à te donner du temps. Je vais être un bon partenaire. Mais sauf que, tu sais, mens-toi pas à toi, puis mens-moi pas. Dans le fond, est-ce que tu veux vraiment, là, est-ce que tu es sérieuse dans ta démarche? Si tu n'es pas sérieuse, moi, je vais m'en rendre compte puis je te donnerai pas de temps. Mais si tu es vraiment, je ne sais pas si tu te rappelles, Camille, quand je t'ai dit ça,
Tout à fait, ben oui.
là. J'ai dit, écoute, on perdra pas de temps, ni toi ni moi, mais moi, ce que je recherche, c'est de donner mon expérience, de la partager. Mais je la partagerai pas avec n'importe qui, je vais partager ça avec quelqu'un qui est sérieux.
Puis ça a bien fonctionné de toute évidence. Est-ce que ça vous fait quand même une espèce de petit velours ou un chaud au cœur, Pierre, de voir que vous avez participé à la relève paralympique de demain en escrime?
Ben, c'est sûr, tu sais, moi, mon but, c'est que l'escrime ne meure pas avec moi, là. Ce que j'aimerais, c'est que, ben, justement, là, qu'il y ait 40 Camilles qui s'inscrivent demain, là, ça, ce serait génial.
Mais là, vous n'auriez pas le
Mais,
temps de prendre les 40 sous votre aile.
ah, ben, en tout cas,
Peut-être.
on trouverait un moyen.
Qu'est-ce que vous entrevoyez, Pierre, pour la suite des choses, autant pour vous que pour Camille, autant pour du côté des compétitions que, par exemple, des Paralympiques de 2020?
Ben, moi, c'est sûr que j'aimerais ça arrêter l'escrime quand même bientôt. Là, j'ai des difficultés à arrêter parce que pour une fois, on a une équipe aussi. Puis, mais j'aimerais ça être un partenaire d'entraînement, continuer à entraîner les nouveaux puis ceux qui sont passionnés par ce sport-là. Mais pas en tant que maître d'armes, mais plus en tant que partenaire d'entraînement. Puis ben le reste, ben c'est sûr, c'est m'occuper de ma famille, jouer de la guitare, faire mes choses à moi là, que j'ai toujours voulu faire puis que j'ai mis à stop là, pendant cette carrière d'escrime là.
Au niveau plus structurel ou organisationnel, est-ce que Escrime Canada ou en fait la fédération qui régit l'escrime au Québec et au Canada a les reins assez solides ou si on aurait besoin d'avoir par exemple un Pierre Mainville qui s'implique à ce niveau-là?
Ben, je pense que la Fédération canadienne d'escrime tente du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir aider les athlètes. C'est sûr que le problème, ce sera toujours monétaire. C'est toujours, je pense, dans tous les sports, c'est un petit peu ça, là. Surtout au Canada, là, on a des difficultés monétaires. Mais t'sais, malgré tout, quand on veut vraiment performer puis tout, on est capable de trouver des moyens. C'est sûr, c'est plus dur pour la personne, c'est plus dur pour un peu tout le monde. Mais autant comme moi, j'ai réussi à quand même à avoir une belle carrière, même si j'avais pas la même structure que d'autres pays qui sont beaucoup plus gros, t'sais, puis qui ont les reins plus solides. J'ai quand même réussi à faire des résultats. Donc, je pense que on est capable de. Je pense que c'est mieux, même aujourd'hui, un petit peu mieux en tout cas. Mais je pense que peut-être avec le futur, peut-être que ça va être mieux, je ne sais pas.
Camille, vous êtes en plein dans votre deuxième année d'escrimeuse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la troisième et la quatrième année d'escrimeuse en fauteuil roulant que vous êtes?
Le plus d'expérience possible, le plus de combats, puis autant de Coupes du Monde que l'année dernière.
Et peut-être une participation un jour
Oh,
au
je
2022.
certainement.
Parfait. Bien, merci beaucoup à Pierre Mainville d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui par téléphone. On
Ça me fait
va
plaisir.
continuer à suivre les prochaines compétitions. Également de votre côté, Camille. Je ne sais pas s'il y a des compétitions qui s'en viennent dans les prochains mois, là.
Oui, à venir, je ne sais pas encore auxquelles je vais pouvoir participer, mais que ce soit la Hongrie, la Hollande ou l'Italie, ça reste à voir.
On va suivre ça de très près. Merci
Voilà.
beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.
Je termine en vous lisant quelques nouvelles qui ont retenu mon attention dans l'univers du parasport. Tout d'abord, le Québécois Philippe Bédard peut dire mission accomplie. Il a réussi à décrocher son cinquième titre d'affilée en simple au championnat canadien de tennis en fauteuil roulant qui avait lieu un petit peu plus tôt à ce mois-ci en Alberta. À Calgary, en Alberta, la tête de série de la division masculine détient désormais les titres nationaux de 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. En finale, il a vaincu le Néo-Brunswickois Bernard Lapointe par les marques de 6-1 et 6-0. Bernard avait été tenu à l'écart de la compétition durant toute la saison en raison d'une blessure, mais il a bien réussi son retour. L'équipe masculine de volleyball assis du Canada a défait le Costa Rica 3-0 pour remporter la médaille de bronze au championnat de volleyball assis de la zone panaméricaine de paravolley qui était à Montréal cette année. Le Brésil a eu le déçu contre l'équipe masculine des États-Unis 3-1 pour gagner la médaille d'or. Les deux équipes médaillées d'or et d'argent obtiennent des places pour le championnat du monde. Les équipes des 3e et 4e places de ce tournoi espéreront se qualifier par les allocations des classements mondiaux. Chez les femmes, les États-Unis ont battu le Brésil 3-0 pour gagner la médaille d'or et le Canada était la 3e équipe dans le tournoi féminin. Alors qu'on approche très bientôt la marque des 100 jours avant l'ouverture des Jeux de Pyeongchang 2018, la billetterie de l'édition paralympique présente des résultats historiquement bas. En fin de semaine dernière, un membre du Parti démocrate, Zhou Xiongye, a confié à une agence de presse que seulement 457 billets avaient été vendus au public sud-coréen. Dès le lendemain, le comité d'organisation des prochains Jeux d'hiver a apporté un correctif, mais les précisions officielles sont quand même très décevantes. Selon les organisateurs, le nombre de billets écoulés sera en réalité de 499. Ce dernier chiffre concerne seulement les places achetées de façon individuelle. En parallèle, les organisateurs ont vendu 8902 places à des groupes ou des collectivités. Au total, les ventes s'élèvent donc à 9401 places pour un événement dont la cérémonie d'ouverture doit se dérouler le 9 mars 2018. Et finalement, l'équipe québécoise de goalball, composée de Josué Coudé et Simon Tremblay de Québec, ainsi que Bruno Haché, Rakiboul Karim et Tristan Lépine Lacroix de Montréal, défendra son titre de championne de l'an dernier lors du tournoi Invitation de goalball de la Nouvelle-Écosse qui débute aujourd'hui et qui se termine dimanche. L'équipe, dirigée par l'entraîneur en chef Nathalie Séguin et son assistante Alexandra Piché-Saint-Louis, jouera 5 parties en ronde préliminaire pour se qualifier pour les demi-finales et les finales qui auront lieu le dimanche à Halifax. Rakiboul et Josué expliquent qu'ils sont excités de ce premier tournoi de la saison où ils pourront mettre en application tout ce qu'ils ont pratiqué en entraînement et par le fait même identifier ce qu'ils ont personnellement à améliorer lors de cette fin de semaine de compétition. Nathalie Séguin tient à essayer plusieurs combinaisons lors des parties afin de voir la profondeur de son équipe et de relever ce qui leur manque pour être prête pour les championnats canadiens en avril prochain. Et évidemment qu'on va suivre les résultats de très près. Je vous invite également à suivre la page Facebook de l'Association sportive des aveugles du Québec pour connaître les résultats tout au long de la fin de semaine. C'est ce qui termine cette émission d'Au Signal. C'était un plaisir encore une fois de vous retrouver aujourd'hui. Merci à mes deux invités, Camille Chaille et Pierre Mainville. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, gardez le sourire.